Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins, pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite, exceptionnellement, quelques extraits de poésie, avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 21 mars 2024, journée mondiale de l'arbre et journée internationale des forêts. À l'heure du dérèglement climatique et de l'érosion avérée du vivant, quelle place prend l'arbre dans nos sociétés humaines? La Journée mondiale de l'arbre et tous les événements connexes ont-ils donné à voir une nouvelle vision de ces êtres chlorophylliens? Et si oui, là ou lesquels? Initialement, la Journée mondiale de l'arbre était une recommandation du Congrès forestier mondial, qui s'est tenue à Rome en 1969. Cette recommandation a été acceptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation en 1971. Dans de nombreux pays, Tree Day, le jour de l'arbre, est utilisé pour planter des arbres et organiser des activités autour de la nature. Ce jour de l'arbre est une célébration officielle dans le but de protéger les forêts et les zones boisées. Sur le territoire des Hauts-de-France, les principales activités, à quelques exceptions près, étaient proposées par l'ONF, l'Office National des Forêts. Cet acteur majeur du territoire forestier, et sous la tutelle des ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique solidaire, a la charge des quelques 11 millions d'hectares de forêts publiques en France métropolitaine et outre-mer. À la croisée des aspirations sociétales, la gestion des forêts devient indispensable pour garantir son renouvellement et la préserver de conflits d'intérêts entre usages et usagers. À l'occasion de la Journée internationale des forêts 2024, l'Office national des forêts, l'ONF, organisé à l'Académie du climat à Paris, conférences, débats, avec la participation d'experts, concerts, rencontres artistiques et ateliers jeunes publics. Toutes les conférences sont visibles en replay, par ailleurs, sur le site internet de l'Académie du climat de Paris. Revenons à nos êtres chlorophylliens. Le réchauffement climatique touche de plein fouet les forêts françaises. Pour des informations plus pointues, je vous renvoie à l'épisode Feuilles de chou, numéro 19, portant sur le rapport annuel de l'IGN sur l'état des forêts en France. Soumise à des épisodes de canicule à répétition, à des pluies acides, à des changements drastiques dans les cycles biogéochimiques, les forêts deviennent très vulnérables aux agressions d'insectes et de champignons, aux incendies et bien d'autres. C'est tout l'écosystème qui est fragilisé. Dans ce contexte d'incertitude et en partant du principe que le pire serait de ne pas agir, les forestiers expérimentent de nombreuses actions pour aider les forêts à s'adapter. L'un des concepts les plus expérimentés est la migration assistée. Mais qu'est-ce que c'est? Celle-ci répond à un climat de plus en plus hostile aux nouvelles plantations et donc à l'exploitation des forêts actuelles. Cela consiste à déplacer de jeunes semis d'espèces issues de contextes plus chauds et secs vers de hautes latitudes. Ce concept, qui date du début des années 2000, voire bien plus ancien, est aujourd'hui la principale solution retenue par les sylviculteurs à l'échelle mondiale pour assurer une productivité forestière pérenne. Ce sujet d'avenir a donc été traité récemment dans un article scientifique paru en décembre 2023, celui-ci interroge la viabilité de telles actions dans le temps. Et pour cause, de nombreuses inconnues résident dans cette équation. Tout d'abord, il faut savoir que deux pratiques existent. La première, c'est l'hybridation, c'est-à-dire un croisement. Par exemple, entre le mélèze d'Europe et le mélèze du Japon, il s'agit alors juste d'un coup de pouce. L'idée, c'est qu'on croise les deux espèces, comme on peut le faire dans l'horticulture, pour avoir de plus grandes fleurs, mais cette fois-ci, c'est pour avoir un arbre plus résistant. L'autre solution consiste à remplacer totalement certaines espèces par d'autres. Généralement, une espèce locale par une nouvelle espèce plus méridionale. Or, d'une méthode à l'autre, les conséquences ne sont a priori pas du tout les mêmes. Laissez-moi vous illustrer mes propos avec un exemple. Dans le premier cas d'hybridation, des chênes pubescents venant du sud de la France sont implantés dans les Hauts-de-France et s'hybrideront avec les chênes natifs locaux, les chênes qu'on va dire sessiles et pédonculés. Dans le second cas d'implantation, on va ramener des chênes verts, essence génétiquement différente, ne pouvant s'hybrider avec nos espèces locales. Ces espèces pourraient néanmoins s'adapter et peupler nos forêts. Mais à ce moment, vous vous demandez, mais quel peut bien être le problème à ça? Eh bien, le fait est que les écosystèmes forestiers dans le sud ont une façon bien particulière de se renouveler. Ils brûlent. Les feuillages de ces espèces sont plus secs et plus riches en molécules volatiles inflammables. Ce risque accru d'incendie est doublé d'un assèchement de l'air et d'une réduction de pouvoir régulateur thermique des forêts. Bien que ces espèces méridionales sont plus économes en eau, cela signifie qu'elles transpirent moins et produisent moins d'ombre, avec pour conséquence, au niveau local, et je dis bien au niveau local, une accélération du réchauffement climatique. Ainsi, certains chercheurs de l'INRAE demandent à exclure ces pratiques de migration assistée des zones naturelles protégées, au risque de les voir disparaître précocement. Cette pratique pourrait remonter jusqu'au XVIIIe siècle en France, et pourtant les recherches sur le sujet sont pauvres, au même titre que la connaissance de nos écosystèmes par ailleurs. Dans l'étude mentionnée plus tôt, il a été analysé la variation de 7 caractères de 106 espèces d'arbres et d'arbustes, de grande taille, provenant de localités bien différentes, allant de l'ouest de l'Amérique du Nord à l'Europe. À l'issue de cette étude, la principale recommandation qui émerge pour préserver ces dernières des risques majeurs, on va préconiser la diversification progressive, année après année, de la structure verticale. Il conseille également de s'atteler à la diversification des strates herbacées et arbustives afin de maintenir un cycle de l'eau durable et un équilibre énergétique entre le sol, l'arbre et l'atmosphère, sans augmenter le risque d'incendie de forêt. Pour certains, cette semaine du 21 mars était une occasion de fêter. Et pour d'autres, il était bon de replacer la poésie au centre de nos vies avec le printemps des poètes. Et si nous tendions un instant la feuille à un assemblage des deux? Poésie extraite des recueils « Dis-moi un poème qui espère » et « Tour de terre en poésie ».
Mes passereaux. Petit dieu à la gorge rouge, mes anges, bouvreuils, pinsons, mes colorés de ciel, vous êtes un peu de sang qui tremble, une poignée de plumes que le vent égare. Roitelet, grive grise dans la douceur des feuilles, moineau des sorbiers, rossignol, alouette, tarin, merle ivre de cerise, vous êtes de passage, mes passereaux. Un filet invisible est tendu sur vos espaces. Le piège se referme. Un bruissement vous parle de la sombre histoire des cages. Vos chants ne séduiront pas le danger. La peur faite homme piétine l'indicible. Savent-ils que les barreaux n'enferment pas le rêve? Anne-Marie de Rez.
Dans le petit jardin de 10 pas. Dans le petit jardin de 10 pas, tu peux voir la lumière du soleil tombait sur deux œillets rouges, un olivier et un peu de vigne vierge. Accepte d'être celui que tu es, le poème. Ne l'engloutis pas dans de profonds platanes. Nourris-le avec la terre et le rocher que tu as. Si tu veux trouver plus, creuse au même endroit. Georges Séphéris. Ma fille, la mer.
Ma fille, la mer.
Tu l'as deviné.
N'est pas un cadeau que l'on peut te faire.
Ma fille, la vague.
Est un autre monde.
Où le pied s'enfonce et pas de réponse.
L'horizon. Ma fille est un grand seigneur.
Qui te recevra quand tu l'ouvriras.
Ma fille,
la ronce.
Tu l'as vu déjà.
Ne fais amitié qui ne soit de hargne.
Ma fille.
La danse.
Que puis-je t'apprendre?
Elle est dans tes yeux et tu la suivras.
Et l'espoir, ma fille.
Plus fort que la mer.
Plus fort que la ronce.
La vague.
Et la danse.
Chaud pour bonheur. J'ai dans mes bras un chaud pour bonheur. Il déroule en rondant le fil du bonheur. Chaud pour bonheur, oh mon chat, donne-moi trois choses. Donne-moi un anneau d'or pour me dire que je suis heureux. Donne-moi un miroir pour me dire que je suis beau. Donne-moi un éventail pour chasser les pensées qui me hantent. Chaud pour bonheur, oh mon chat, ronronne. Et déroule encore un peu de mes rêves d'avenir.
Le vol en V des oies sauvages d'Ismaël Kadaré. Elles ont tracé la seule et unique relève qu'elles savent écrire, V magnifique dans le ciel de leur exil. Elles laissent quelque chose après elles. Elles emportent quelque chose par-delà les nuages. Pour cette beauté essentielle, grâce vous soit rendue, oie sauvage. Car il a suffi d'une seule et unique lettre dans le ciel démesurément gris pour que, mieux qu'une bibliothèque, vous donniez corps à notre nostalgie.
Sous ses attraits d'être gigantesque figé, l'arbre supplante ce monde et traverse les époques dans sa modeste forêt. Il englobe ce qui paraît être un imaginaire sans limite. Cet imaginaire se développe parfois sous nos pieds et refait surface de manière inopinée sur l'espace public. Lors de la Biennale Appel d'air cette année à Arras, le collectif Artimuse a co-construit avec les élèves du lycée Jacques Le Caron une sculpture à base de cagettes brisées et colorées. Cette œuvre, de son inspirant nom Émergence, veut rendre visibles les déplacements des insectes en milieu urbain, entre déjections animales, bitume ardent et racines batifolant avec une terre malmenée. Montée à plusieurs mètres de haut et serpentant avec une structure métallique existante, ces serpents en bois recyclés illustrent les galeries multiples et variées qui permettent à notre sol de respirer et stocker cette eau si précieuse. Un autre artiste cherche à pousser notre imagination au-delà des limites du réel. Gilbert Garcin alias Mister G, parle du monde contemporain à travers ses compositions photographiques en noir et blanc. La fausse maladresse de ses mises en scène bricolées procure ce sentiment de fragilité et de légèreté propre au vivant. Lorsque le vent se lèvera, est une œuvre qui propose un pissenlit géant qui sème une de ses graines aux pieds de l'artiste. Sauver la nature, une autre de ses œuvres connues, tourne en dérision l'artiste tenant à bout de bras un brin de graminée géant dans un champ de plantes tout identique. Devant ces images, le passant sourit. L'humour berce les moments de complicité avec cet artiste disparu désormais. Son œuvre est exposée jusqu'au 1er avril à Beauchep, petite bourgade proche de Bailleul. Ces événements nous entraînent dans une campagne d'ensemencement, graines d'idées diverses et transverses, pour que pleuve sur nous le temps d'un instant, une vision toujours plus riche de ces êtres avec qui nous cohabitons. Tu as pêché où, baobab, acajou. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un passionné du vivant avec cette question d'actu, cuisiner aux petits oignons.
De palissandre, mais l'aise tremble, tremble être noyée.